Nous accueillons maintenant Sarah Nikez, psychothérapeute spécialiste de l'accompagnement de crises relationnelles et de crises émotionnelles. Nous allons parler ensemble d'empathie, Sarah. Cette capacité à s'identifier à quelqu'un pour comprendre ce qu'il ressent. Et c'est une notion clé. Venez vous asseoir avec moi. Prenez un micro. Voilà. Celui que vous voulez. Je pense qu'en régie...
Est-ce qu'on m'entend? Oui, non?
Oui, parlez bien dedans.
Vous m'entendez? Est-ce que je peux l'enlever? On respecte...
Si vous voulez, on est assez loin, il n'y a pas de souci.
Je suis également majeure et vaccinée.
Voilà, très bien. Qu'est-ce que vous constatez, Sarah Nikez, autour des patients Alzheimer, au niveau de leurs proches, en termes d'empathie et l'impact de la maladie sur la relation dans la famille?
Alors, quand on parle d'empathie, je vais d'abord me présenter. Je suis de base, je suis de formation assistante sociale. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. Et une assistante sociale, en fait, elle est appliquée à conduire une relation d'aide avec la personne qu'elle a en face d'elle. Et on se rend compte avec cette empathie qui est finalement de l'ordre du vivant. On a tous de l'empathie. Vous êtes inondé d'empathie depuis votre naissance, comme Monsieur Jourdain l'était de la prose. C'est tout simplement la capacité qu'on a tous à vouloir faire le bien et les ressources suffisantes qu'on a pour toujours s'adapter aux situations et pour survivre. Voilà ce que c'est que l'empathie. Et c'est en fait informé de ce grand concept que j'ai été éveillée par le besoin des proches que je rencontrais dans les entreprises. Il ne faut quand même pas oublier que pratiquement 4 personnes sur 10 en entreprise s'occupent d'un proche. Donc j'ai rencontré ces proches. Je suis une femme de terrain. C'est-à-dire que je parle avec les gens, j'écoute les gens. Et je me suis rendu compte que finalement, ils étaient verrouillés par une culpabilité qui les empêchait d'être auto-empathiques.
Quand la maladie arrive, en fait, on se sent...
Pas la maladie, le proche
du malade.
Du malade. Finalement, se verrouillait dans une culpabilité. Dans une culpabilité qui l'empêchait d'exercer pour lui cette propre empathie.
Alors, c'est-à-dire qu'il s'accusait. Pardon. On se sent coupable de quoi?
On se sent coupable de tout. J'ai pris quelques notes. On a appelé ça, on a travaillé là-dessus avec les personnes, puisque j'anime des groupes. On a travaillé là-dessus, et pour vous donner un ordre d'idée, derrière chaque phrase, en fait, il y a une personne. Hein. Il y a une personne et un ressenti. Par exemple, j'ai de la difficulté à m'endormir ou je me réveille souvent la nuit. Je me lève fatiguée le matin, je manque d'énergie. J'ai perdu l'appétit, je mange mal, je me sens fragile, plus souvent malade, irritable, impatiente. J'en fais beaucoup, pourtant je me sens coupable de ne pas faire plus. J'ai du mal à me concentrer, j'ai tendance à oublier des choses simples, j'ai abandonné des activités que j'aime, je n'ai plus beaucoup de contact avec d'autres gens, j'ai l'impression de pleurer pour des riens, je me sens triste et découragée, je suis anxieux face à l'état de mon proche et face à l'avenir, j'ai envie de tout abandonner.
Ça, ce sont des paroles d'aidants.
Ce sont des paroles d'aidants, ce sont des paroles en fait que nous, en groupe même, on retranscrit parce que cette culpabilité-là qui verrouille, cette culpabilité, moi j'ai envie et j'ai décidé qu'elle nous parle. Qu'elle nous parle tout simplement pour savoir où en était l'aidant et pour qu'il puisse avec cela exercer cette auto-empathie pour l'intégrer, pour l'accepter, car on ne peut accepter finalement que ce que l'on connaît de soi-même. Et cette empathie, elle m'a plu, et cette culpabilité, elle m'a plu d'être regardée avec l'empathie, tout simplement parce qu'elle vous permet de comprendre vos limites. C'est comme, vous savez, vous butez, vous vous servez de la culpabilité, vous vous servez de ce dont vous vous sentez incapable de faire et coupable de ne pas pouvoir faire, pour vous rendre compte à quel point finalement le lien qui vous lie à l'autre se délite.
On aimerait pouvoir le guérir, on ne peut pas. On aimerait pouvoir le soulager, lui redonner de l'autonomie. C'est quoi cette culpabilité?
Cette culpabilité-là, elle ressemble un petit peu à cette culpabilité que l'on retrouve dans le deuil. Je me suis aussi beaucoup intéressée au deuil, aux étapes du deuil, à tout ce qu'a pu nous transmettre Madame Kubler-Ross. J'anime tous les ans un colloque sur le deuil. Et en fait, on l'appelle le deuil blanc. ce deuil que ressent le proche aidant. C'est-à-dire que c'est un deuil qui n'en finit pas de finir. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans les renoncements. À peine avez-vous intégré un renoncement que vous avez même de la difficulté à anticiper les prochains renoncements qui vont arriver jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est un état, c'est ce qu'on appelle un peu une pensée paradoxale. Vous voyez, vous êtes toujours en fait dans cet état de déséquilibre qui fait que vous êtes beaucoup plus préoccupé par le renoncement que par les capacités que vous avez, que vous développez, même si vous vous servez de la culpabilité pour pouvoir vous adapter.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut aider l'aidant à dépasser ces...
Alors, on ne le dépasse pas, on rentre dedans. Vous savez, souvent on dit, oh là là, quand est-ce que je vais m'en sortir ? Eh bien, c'est l'occasion de dire, ben non, on va y rentrer. On va y rentrer pour savoir exactement ce qui se passe, exactement ce qui se passe pour vous. Et ce qui est très curieux, c'est en groupe, il y a une dynamique, les échanges se font et les petits trucs, parce que finalement, on est beaucoup plus fort que l'on croit, et ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on est faible, mais c'est parce qu'on a été fort un peu trop longtemps. Et on a déjà développé des petits trucs, on a déjà développé en fait finalement de la résilience. On a déjà développé des concepts d'adaptation. Je pense par exemple à cette personne. Et tout ça, ça se trouve au niveau des échanges. Et ça peut se trouver au niveau des échanges à partir du moment où vous mettez à nu devant cette culpabilité-là. Je ne sais pas si je suis claire
de faire
penser à quel point la culpabilité n'est pas une énergie en fait, dont on doit se sentir encore plus coupable. Hein. C'est quelque chose en fait qu'on doit non pas accueillir, mais faire avec la condition dans laquelle on est, parce que c'est une énergie qui porte en elle finalement, d'une certaine façon, de la résilience et de la résistance.
Souvent, on entend les gens dire « je ne peux pas le laisser parce que je suis le seul à savoir, le comprendre, à savoir ».
Exactement, exactement.
Et donc, vous dites « acceptons de ne pas forcément être le seul, acceptons de penser qu'on est le seul, mais que peut-être ce n'est pas le cas ».
Oui, mais vous pourrez penser que vous n'êtes pas le seul à partir du moment où vous pourrez exprimer que vous pensez être le seul. C'est ça l'idée, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est déverrouillé, mais c'est rentrer quand même dans la résistance pour l'affronter.
Alors ça veut dire qu'on ne peut pas rester justement seul, qu'il faut réussir à trouver un interlocuteur avec qui échanger sur ces difficultés.
Exactement, c'est très important et c'est un petit peu l'idée de ce que l'audience a voulu mettre en place. C'est justement des groupes d'échange, des groupes où bien sûr sont garantis le respect, la confiance, des groupes que je conduis moi-même pour finalement donner du sens à chacune des paroles qui
donc
sont
permettre à des aidants d'échanger avec d'autres aidants sur ces difficultés, ces pensées qui nous attristent, qui nous bloquent.
Oui, sans rajouter à cette culpabilité-là. Mais en fait, considérer que cette énergie, que la force qu'on a, pour toutes les personnes que j'ai vues et qui sont aidantes pour moi, ont une forme d'héroïsme dans la mesure où elles osent avouer là où elles échouent. Elles osent l'avouer. Elles osent avouer en fait ce sentiment d'injustice qui les étreint, parce que c'est même d'être abandonnée, c'est difficile de faire le deuil d'une relation. C'est difficile aussi de se dire que la personne qu'on a en face de soi n'est plus la personne que l'on a connue.
Et pour autant, vous dites, miser sur cette période, c'est possible d'améliorer les choses, c'est possible d'avoir encore des bons moments ensemble, c'est possible.
Exactement. C'est d'autant plus possible qu'on accepte exactement la situation dans laquelle on est. C'est comme un deuil. C'est à partir de là où on peut réellement l'intégrer. Il ne suffit pas le manque. Le manque, en fait, est source de potentialité. Le manque est source d'énergie. Ce n'est pas parce que la personne qui est en face de vous a changé, que la relation a changé, que pour autant le lien d'amour n'existe pas.
L'humain a une capacité incroyable à s'adapter.
Exactement. Le tout, c'est de lui permettre de le faire et de déverrouiller la culpabilité dans la mesure où on la laisse tout simplement à sa place. Il ne faut pas qu'elle prenne plus de place. Il ne faut pas que ce soit la culpabilité qui nous regarde et qui nous isole. Il faut qu'on se donne tout simplement un moment de regarder la culpabilité en face.
Vous m'avez raconté l'histoire du chacal et de la girafe.
Ah oui, ça, j'ai remarqué.
Racontez-moi ça.
Non, ça, c'est parce que je me sers de tas de techniques. Enfin, j'ai travaillé avec Boris Cyrulnik aussi sur la résilience. Et ça, la girafe, on s'en sert pour les enfants. J'anime aussi des ateliers pour les parents qui ont des problèmes avec les adolescents. Alors, la girafe, c'est une idée de Rosenberg. Hein. C'est de la communication,
non violente.
Exactement. C'est tout simplement qu'on a en soi, en fait, eh bien, la girafe, vous savez, c'est quand même l'animal qui a le plus gros cœur. C'est l'animal qui voit de haut, qui est capable de superviser, qui est capable, en fait, de se regarder. C'est un petit peu comme les neurones miroirs, vous savez, avec lesquels on travaille, avec Colette Romanoff, je crois que vous connaissez. Mais la girafe, elle est là, pas toute puissante. Hein. Elle est gentille, elle est grégaire, elle veut sauver, elle veut en fait nous aider à toujours être suffisamment fort à pouvoir comme ça avancer dans la vie. Et puis vous avez le chacal, ben oui, le pauvre, lui, hein, non, lui, il est, c'est l'instinct de survie qui l'occupe, qui l'intéresse, il a peur, il faut qu'il pense, il a peur des prédateurs, mais en même temps, il faut qu'il pense à finalement avoir une proie. Donc c'est celui qui est en nous et qui a peur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rosenberg? Ben, écoutez-les les deux, parce que finalement, la girafe sans le chacal, ça ne va pas non plus. Il faut se dire que la culpabilité, elle nous éveille à quelque chose. Elle nous alerte, il faut l'écouter. Elle vous parle de vos résistances, elle vous parle de tout ce que je viens de dire là dans le baromètre de la fatigue. Écoutez-la, elle a des choses à nous dire. Et si elle nous les dit, elle ne nous les dit pas n'importe comment, parce qu'elle vous parle du lien. On n'est pas coupable de la même façon de quelqu'un qui nous est proche et qui nous a aimés que de la façon, malheureusement, de quelqu'un qui nous est loin et qu'on ne connaît pas.
Merci beaucoup, Sarah Nicaise. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Je